This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
16e veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Les maîtres sonneurs de George Sand. 16e veillée. Huriel se signa en soupirant. Je fis comme lui, et, nous détournant de ce mauvais arbre, nous passâmes notre chemin. J'aurais voulu lui dire, comme le carme, quelques bonnes paroles pour le tranquilliser, car je voyais bien qu'il avait l'esprit en peine. Mais, outre que je n'étais pas assez savant pour le prêche, je me sentais coupable aussi à ma manière. Je me disais, par exemple, que si je n'eusse point raconté tout haut l'histoire du bois de la roche, Huriel ne se serait peut-être pas si bien souvenu du serment qu'il avait fait à Brulette de la venger, et que si je ne me fusse point porté le premier son défenseur devant les muletiers et les anciens de la forêt, Huriel ne se serait pas tant pressé d'en avoir l'honneur avant moi vis-à-vis d'elle. Tourmenté de ces idées, je ne pus m'empêcher de les dire à Huriel et de m'accuser devant lui, comme Brulette s'était accusée devant Thérence. « Mon cher ami Tiennet, me répondit le muletier, tu es un bon cœur et un brave garçon. Je ne veux point que tu gardes du trouble en ta conscience, pour une chose que Dieu, au jour du jugement, n'attribuera ni à toi, ni peut-être à moi. Le frère Nicolas a raison. Il est le seul juge qui puisse rendre bonne justice, parce qu'il sait les choses comme elles sont. Il n'a pas besoin d'appeler des témoins et de faire enquête de la vérité. Il lit dans le fin fond des cœurs, et il sait bien que le mien n'avait juré ni comploté mort d'homme, au moment où j'ai pris un bâton pour corriger ce malheureux. Ces armes-là sont mauvaises, mais elles sont les seules que nos coutumes nous permettent en pareil cas, et ce n'est pas moi qui en ai inventé l'usage. Certes, mieux vaudrait la seule force des bras et le seul office des poings, comme nous y avons eu recours une nuit, dans ton pré, à propos de mon mulet et de ton avoine. Mais sache qu'un muletier doit être aussi brave et aussi jaloux de son renom d'honneur que les plus grands messieurs portant l'épée. Si j'avais avalé l'injure de Malzac sans en chercher réparation, j'aurais mérité d'être chassé de ma confrérie. Il est bien vrai que je n'ai pas cherché cela de sang-froid, comme on doit le faire. J'avais rencontré, hier matin, ce Malzac seul à seul, dans ce même bois de la roche, où je travaillais tranquillement, sans plus songer à lui. Il m'avait encore molesté de ses sottes paroles, prétendant que Brulette n'était qu'une ramasseuse de bois mort, ce qui, chez les forestiers, s'entend d'un fantôme qui court la nuit, et dont la croyance sert souvent aux filles de mauvaise conduite pour n'être point reconnues, grâce à la peur que les bonnes gens ont de cet esprit follet. Aussi, dans l'idée des muletiers, qui ne sont point crédules, un pareil mot est une grande injure. Pourtant, je fus aussi endurant que possible, mais, à la fin, poussé à bout, je lui fis des menaces pour m'en débarrasser. Il me répondit alors que j'étais un lâche, capable d'abuser de ma force en un endroit écarté, mais que je n'oserais pas le défier au bâton, en franche bataille, devant témoins. Que chacun savait bien que je n'avais jamais eu occasion de marquer ma hardiesse, et que là où il y avait compagnie, j'étais toujours du goût de tout le monde, afin de n'avoir point à me mesurer en partie égale. Là-dessus, il me quitta, disant qu'il y avait danse au bois de Chambérat, que c'était Brulette qui régalait, et qu'elle en avait le moyen, attendu qu'elle était maîtresse d'un gros bourgeois en son pays, et que, pour sa part, il irait là se divertir et courtiser la demoiselle à ma barbe si j'avais le cœur de m'en venir assurer. Tu sais, Tiennet, que j'avais intention de ne plus revoir Brulette, et cela pour des raisons que je te dirai peut-être plus tard. Je les sais, répondis-je, car je vois que tu as vu ta sœur cette nuit, et voilà, à ton oreille, un gage qui dépasse ton mouchoir et qui me prouve ce dont j'avais déjà une forte doutance. Si tu sais que j'aime Brulette et que je tiens à son gage, reprit Huriel, tu en sais autant que moi. Mais tu ne peux en savoir davantage, car je ne suis sûr que de son amitié, et quant au reste. Mais il ne s'agit pas de ça, et je te veux raconter comment le malheur m'a ramené ici. Je ne voulais ni être vue de Brulette, ni lui parler, parce que j'avais remarqué le tourment qui serrait le cœur de Joseph à mon endroit. Mais je savais que Joseph n'avait pas ses forces pour la défendre, et que Malzac était assez sournois pour s'échapper aussi de toi. Je suis donc venue ici au commencement de la fête, et je me suis tenue cachée aux alentours de la danse, me promettant de partir sans me faire voir si Malzac n'y venait point. Tu sais le reste jusqu'au moment où nous avons pris le bâton. Dans ce moment-là, j'étais en colère, je le confesse. Mais pouvait-il en être autrement, à moins de valoir autant qu'un saint du paradis? Cependant, je ne voulais que donner une correction à mon ennemi, et ne pas laisser dire plus longtemps, surtout dans un moment où Brulette était au pays, qu'à force d'être doux et patient, j'étais un lièvre. Tu as vu que mon père, qui est là de pareils propos, ne m'a pas empêché de prouver que je suis un homme. Mais il faut que je sois doué d'une mauvaise chance, puisque à mon premier combat, et quasi de mon premier coup... Ah, Tiennet, on a beau avoir été forcé, et sentir en soi-même qu'on est doux et humain, on ne se console pas aisément, j'en ai peur, d'avoir eu la main si mauvaise. Un homme est un homme, si mal appris et mal embouché qu'il soit. Celui-là était peu de chose de bon, mais il aurait eu le temps de s'amender, et voilà que je l'ai envoyé rendre ses comptes avant qu'il les eût mis en ordre. Aussi, Tiennet, tu me vois, je t'assure, bien dégoûté de l'état de muletier, et je reconnais, à présent, avec Brulette, qu'il est malaisé à un homme juste et craignant Dieu de s'y maintenir en estime avec sa conscience et l'opinion des autres. Je suis obligé d'y passer encore un temps, à cause des engagements que j'ai pris, mais tu peux compter que le plus tôt possible, je m'en retirerai et prendrai quelque autre métier plus tranquille. C'est là, dis-je à Huriel, ce que je dois rapporter à Brulette, est-ce pas? Non, répondit Huriel avec une grande assurance, à moins que Joseph ne soit si bien guéri de son amour et de sa maladie qu'il puisse renoncer à elle. J'aime Joseph autant que vous l'aimez, mes bons enfants. Et d'ailleurs, il m'a fait ses confidences. Il m'a pris pour son conseil et son soutien. Je ne le veux pas tromper, ni contrecarrer. Mais Brulette ne veut pas de lui pour amant et mari, et peut-être vaudrait-il mieux qu'il le sût le plus tôt possible. Je me chargerais bien de le raisonner, si les autres n'osaient. Et il y a chez vous une personne qui pourrait rendre Joseph heureux, tandis qu'il ne le sera point par Brulette. Il aura beau attendre, plus il se flattera, plus le coup lui paraîtra dur à porter. Au lieu que, s'il ouvrait les yeux sur la véritable attache qu'il peut trouver ailleurs... Laissons cela, répondit Huriel en fronçant un peu le sourcil, ce qui lui fit faire la grimace d'un homme qui souffre d'un grand trou à la tête, comme il l'avait justement tout frais sous son mouchoir rouge. Toutes choses sont en la main de Dieu. Et, dans notre famille, personne n'est pressé de faire son bonheur aux dépens de celui des autres. Il faut, quant à moi, que je parte, car je répondrais trop mal aux gens qui me demanderaient où a passé Malzac et pourquoi on ne le voit plus au pays. Écoute seulement encore un mot sur Brulette et sur Joseph. Il est bien inutile de leur dire le malheur que j'ai fait. Excepté les muletiers, il n'y a que mon père, ma sœur, le moine et toi, qui sachiez que quand l'homme est tombé, c'était pour ne plus se relever. Je n'ai eu que le temps de dire à Thérence tout bas, « Il est mort, il faut que je quitte le pays. » Maître Archignat en a dit autant à mon père, mais les autres bûcheux n'en savaient rien et ne souhaitaient point le savoir. Le moine lui-même n'y aurait vu que du feu, s'il ne nous eût suivis pour porter secours aux blessés, et les muletiers étaient tentés de le renvoyer sans lui rien dire. Mais le chef a répondu de lui, et moi, quand j'aurais dû y risquer mon coup, je ne voulais pas que cet homme fût enterré comme un chien, sans prière chrétienne. À présent, c'est à la garde de Dieu. Tu comprends donc, de reste, qu'un homme menacé, comme je suis, d'une mauvaise affaire, ne peut pas, de longtemps, songer à courtiser une fille aussi recherchée et aussi précieuse que Brulette. Seulement, tu peux bien, pour l'amour de moi, ne pas lui dire où j'en suis. Je veux bien qu'elle m'oublie, mais non qu'elle me haïsse ou me craigne. Elle n'en aurait pas le droit, répondis-je. « Puisque c'est pour l'amour d'elle. »« Ah !» dit Huriel en soupirant et en passant sa main sur ses yeux. « Voilà un amour qui me coûte cher. »« Allons, allons, lui dis-je. Du courage. Elle ne saura rien, tu peux compter sur ma parole. Et tout ce que je pourrais faire pour qu'à l'occasion elle reconnaisse ton mérite, je le ferai bien fidèlement. »« Doucement, doucement, Tiennet, reprit Huriel. Je ne te demande pas de te mettre de côté pour moi comme je m'y suis mis pour Joseph. Tu ne me connais pas autant, tu ne me dois pas la même amitié, et je sais ce que c'est que de pousser un autre en la place qu'on voudrait occuper. Tu en tiens aussi pour Brulette, et il faudra que, sur trois prétendants que nous sommes, deux soient justes et raisonnables quand le troisième sera préféré. Encore ne savons-nous point si nous ne serons pas pillés par un quatrième. Mais, quoi qu'il en advienne, j'espère que nous resterons amis et frères, tous les trois. Il faut me retirer de l'ordre des prétendants, répondis-je en souriant sans dépit. J'ai toujours été le moins emporté, et, à présent, je suis aussi tranquille que si je n'y avais jamais songé. Je sais le secret du cœur de cette belle. Je trouve qu'elle a fait le bon choix, et j'en suis content. Adieu donc, mon Huriel. Que le bon Dieu t'assiste et que l'espérance t'aide à oublier cette mauvaise nuit. Nous nous donnâmes l'accolade du départ, et je m'enquis du lieu où il se rendait. « Je m'en vas, dit-il, jusqu'aux montagnes du Forez. Fais-moi écrire au bourg d'Huriel, qui est mon lieu de naissance et où nous avons des parents établis. Ils me feront passer tes lettres. Mais pourras-tu voyager si loin avec cette plaie à la tête? N'est-elle point dangereuse? Non, non, dit-il, ce n'est rien. Et j'aurais souhaité que l'autre eût la tête aussi dure que moi. Quand je me trouvais seul, je m'étonnais de tout ce qui était advenu en la forêt, sans que j'en eusse ouï ou surpris la moindre chose. D'autant plus que, repassant, au grand jour, sur la place de la danse, je vis que, depuis le minuit, on était revenu faucher l'herbe et piocher la terre pour enlever toute trace du malheur qui y était arrivé. Ainsi, d'une part, on était venu, par deux fois, raccommoder les choses en cet endroit. De l'autre, Thérence avait communiqué avec son frère, et, au milieu de tout cela, on avait pu faire un enterrement, sans que, malgré la nuit claire et le silence des bois, en les suivant dans toute leur longueur et en prêtant grande attention, j'eusse été averti par la moindre apparence et le moindre souffle. Cela me donna bien à penser sur la différence des habitudes et partant des caractères entre les gens forestiers et les laboureurs des pays découverts. Dans les plaines, le bien et le mal se voient trop pour qu'on n'apprenne pas, de bonne heure, à se soumettre aux lois et à se conduire suivant la prudence. Dans les forêts, on sent qu'on peut échapper au regard des hommes, et on ne s'en rapporte qu'au jugement de Dieu ou du diable, selon qu'on est bien ou mal intentionné. Quand je regagnais les loges, le soleil était levé. Le grand bûcheux était parti pour son ouvrage, Joseph dormait encore, Thérence et Brulette causaient ensemble sous le hangar. Elles me demandèrent pourquoi je m'étais levé si matin, et je vis que Thérence était inquiète de ce que j'avais pu voir et apprendre. Je fis comme si je ne savais rien, et comme si je n'avais pas quitté le bois de l'Alleu. Joseph vint bientôt nous rejoindre, et j'observai qu'il avait beaucoup meilleure mine qu'à notre arrivée. « Je n'ai pourtant guère dormi, répondit-il. Je me suis senti agité jusqu'à l'approche du jour. Mais je crois que c'est parce que la fièvre, qui m'a tant accablé, m'a enfin quitté depuis hier soir, car je me sens plus fort et plus dispos que je ne l'ai été depuis longtemps. » Thérence, qui se connaissait à la fièvre, lui questionna le pouls, et la figure de cette belle, qui était bien fatiguée et abattue, s'éclaircit tout d'un coup. « Allons, dit-elle, le bon Dieu nous envoie au moins ce bonheur que voilà un malade en bon chemin pour guérir. La fièvre est partie et les forces du sang reviennent déjà. » « S'il faut que je vous dise ce que j'ai senti, reprit Joseph, ne dites pas que c'est une songerie. Mais voici la chose. D'abord, apprenez-moi si Huriel est parti sans blessure, et si l'autre n'en a pas plus qu'il ne faut. Avez-vous reçu des nouvelles du bois de Chambéra ?»« Oui, oui, répliqua vivement Thérence. Tous deux sont partis pour le haut pays. Dites ce que vous alliez dire. » « Je ne sais pas trop si vous le comprendrez, vous deux, reprit Joseph, s'adressant aux jeunes filles. Mais voilà Tiennet qui l'entendra bien. En voyant hier notre Huriel se battre si résolument, les jambes m'ont manqué, et, me sentant plus faible qu'une femme, j'aurais pour un rien perdu ma connaissance. Mais, en même temps que mon corps s'en allait défaillant, mon cœur devenait chaud et mes yeux ne lâchaient point de regarder le combat. Quand Huriel a abattu son homme et qu'il est resté debout, il m'a passé un vertige et, si je ne me fusse retenu, j'aurais crié victoire et mêmement chanté comme un fou ou comme un homme pris de vin. J'aurais couru l'embrasser si j'avais pu. Mais tout s'est dissipé et, en revenant ici, j'étais brisé dans tous mes os, comme si j'eusse porté et reçu les coups. N'y pensez plus, dit Thérence. Ce sont de vilaines choses à voir et à se remémorer. Je gage que vous en avez mal rêvé ce matin ?
Je n'en ai rêvé ni bien ni mal, dit Joseph. J'y ai songé, et me suis senti peu à peu tout réveillé dans mes idées, et tout raccommodé dans mon corps, comme si l'heure était venue pour moi d'emporter mon lit et de marcher, à la manière de ce paralytique dont il est parlé aux Évangiles. Je voyais Huriel devant moi, tout brillant de lumière, et me reprochant ma maladie comme une lâcheté de mon esprit. Il avait l'air de me dire « Je suis un homme, et tu n'es qu'un enfant. Tu trembles la fièvre pendant que mon sang est en feu. Tu n'es bon à rien, et moi je suis bon à tout pour les autres et pour moi-même. Allons, allons, écoute cette musique. » Et j'entendais des airs qui grondaient comme l'orage, et qui m'enlevaient sur mon lit, comme le vent enlève les feuilles tombées. « Tenez, Brulette, je crois que j'ai fini d'être lâche et malade, et que je pourrais, à présent, aller au pays embrasser ma mère et faire mon paquet pour partir, car je veux voyager, apprendre et me faire ce que je dois être. »
« Vous voulez voyager ?» dit Thérence, qui s'était allumée de contentement comme un soleil, et qui redevint blanche et brouillée comme la lune d'automne. « Vous espérez trouver un meilleur maître que mon père et de meilleurs amis que les gens d'ici ? Allez voir vos parents, vous ferez bien, si vous en avez la force. Mais, à moins que vous n'ayez envie de mourir au loin, »
Le chagrin ou le mécontentement lui coupèrent la parole. Joseph, qui l'observait, changea tout de suite de mine et de langage.
« Ne faites pas attention à ce que je rêvais ce matin, Thérence, » lui dit-il. « Jamais je ne trouverai meilleur maître ni meilleurs amis. Vous m'avez dit de vous raconter mes songes. Je vous les raconte, voilà tout. Quand je serai guéri, je vous demanderai conseil à vous trois, ainsi qu'à votre père. Jusque-là, ne pensons point à ce qui peut me passer par la tête. » Et réjouissons-nous du temps que nous sommes ensemble. »
Thérence s'apaisa, mais Brulette et moi, qui connaissions bien comme Joseph était décidé et entêté sous son air doux, nous, qui nous souvenions de la manière dont il nous avait quittés, sans rien contredire et sans se laisser rien persuader, nous pensâmes que son parti était pris et que personne n'y pourrait rien changer. Pendant les 2 jours qui s'ensuivirent, je recommençai de m'ennuyer, et Brulette pareillement, malgré qu'elle se dégagea beaucoup pour achever la broderie dont elle voulait faire don à Thérence, et qu'elle alla voir le grand bûcheux souvent, tant pour laisser Joseph aux soins de la fille des bois, que pour parler d'Huriel avec son père, et consoler ce brave homme de la tristesse et de la crainte où l'avait mis la bataille. Le grand bûcheux, touché de l'amitié qu'elle lui marquait, eut la confiance de lui dire toute la vérité sur Malzac, et loin que Brulette en voulût mal à Huriel, comme celui-ci l'avait redouté, elle ne s'en attacha que mieux à lui, par l'intérêt qu'elle lui portait et la reconnaissance qu'elle lui devait. Le 6e jour, on parla de se séparer, car le terme approchait et il fallait s'occuper du départ. Joseph reprenait à vue d'œil. Il travaillait un peu et faisait de tout son mieux pour vitement éprouver et ramener ses forces. Il était décidé à nous reconduire et à passer 1 ou 2 jours au pays, disant qu'il reviendrait au bois de l'Alleu tout de suite, ce qui ne nous paraissait pas bien certain, non plus qu'à Thérence, qui commençait à s'inquiéter de sa santé quasi autant qu'elle s'était inquiétée de sa maladie. Je ne sais si ce fut elle qui persuada au grand bûcheux de nous reconduire jusqu'à mi-chemin, ou si l'idée lui en vint de lui-même, mais il nous en fit l'offre, qui fut bien vite acceptée de Brulette, et ne plut qu'à moitié à Joseph, encore qu'il n'en fit rien voir. Ce bout de voyage ne pouvait que donner au grand bûcheux une diversion à son chagrin, et, en s'y préparant, la veille du départ, il reprit une bonne partie de sa belle humeur. Les muletiers avaient quitté le pays sans encombre, et il n'y était point question de Malzac, qui n'avait ni parents ni amis pour le réclamer. Il pouvait donc bien se passer 1 an ou 2 avant que la justice se tourmentât de ce qu'il était devenu, et encore était-elle bien capable de ne s'en enquérir jamais. Car dans ce temps-là, il n'y avait pas grand police en France, et un homme de peu pouvait disparaître sans qu'on y prît garde. De plus, la famille du grand bûcheux devait quitter l'endroit à la fin de la saison, et comme ni le père ni le fils ne se tenaient plus de 6 mois au même lieu, il eût fallu être habile pour savoir où l'y réclamer. Pour toutes ces raisons, le grand bûcheux, qui ne craignait que le premier contre-coup de l'événement, voyant que le secret ne s'ébruitait point, reprit confiance et nous rendit le courage. Le matin du 8e jour, il nous fit tous monter dans une petite charrette basse qu'il avait empruntée, ainsi qu'un cheval, à un sien ami de la forêt, et, prenant les rênes, nous conduisit par le plus long, mais par le plus sûr chemin,
jusqu'à Sainte-Sevère, où nous devions prendre congé de lui et de sa fille. Brulette regrettait, en elle-même, de passer par un pays nouveau, où elle ne revoyait aucun des endroits où elle avait cheminé en la compagnie d'Huriel. Pour moi, j'étais content de voyager et de voir Saint-Palais en Bourbonnais et Préverange, qui sont petits bourgs sur grande hauteur, puis Saint-Projet et Pérasset, qui sont autres bourgs, en descendant le courant de l'Indre. Et, comme nous suivions, quasi depuis sa source, cette rivière qui passe chez nous, je ne me trouvais plus si étrange et ne me sentais plus en un pays perdu. Je me reconnus tout à fait à Sainte-Sevère, qui n'est plus qu'à 6 lieues de chez nous et où j'étais déjà venu une fois. Là, du temps que mes compagnons de route parlaient d'adieu, je fus m'enquérir d'une voiture à louer pour continuer notre voyage. Mais je ne pus en trouver une que pour le lendemain, aussi matin que je le souhaiterais. Quand j'en revins dire la nouvelle, Joseph prit de l'humeur. « Quoi donc faire d'une charrette ? » dit-il. « Ne pouvons-nous, de notre pied, nous en aller chez nous à la fraîcheur et arriver sur la tardée du soir ? » Brulette a fait souvent plus de chemin pour aller danser à quelque assemblée, et je me sens tout capable d'en faire autant qu'elle. Thérence observa qu'une si longue course lui ferait revenir la fièvre, et il s'y obstina d'autant plus. Mais Brulette, qui voyait bien le chagrin de Thérence, coupa court en disant qu'elle se sentait lasse, qu'elle serait aise de passer la nuit à l'auberge et de s'en aller ensuite en voiture. « Eh bien, dit le grand bûcheux, nous ferons de même. Nous laisserons reposer notre cheval toute la nuit, et nous nous départirons de vous autres au jour de demain. Et, si vous m'en croyez, au lieu de nous restaurer en cette auberge pleine de mouches, nous emporterons notre dîner sous quelques feuillades ou au bord de l'eau et y passerons la soirée à deviser jusqu'à l'heure de dormir. » Ainsi fut fait. Je retins 2 chambres, l'une pour les filles, l'autre pour les hommes, et voulant régaler une bonne fois le père Bastien à mon idée, m'étant aperçu qu'à l'occasion il était beau mangeur, je fis remplir une grande corbeille de ce qu'il y avait de mieux en pâté, pain blanc, vin et brandevin, et l'emportai au dehors de la ville. Il est heureux que la mode de boire le café et la bière ne régnât pas encore, car je n'y aurais pas regardé et y eusse laissé le restant de ma poche. Sainte-Sevère est un bel endroit, coupé en ravins bien arrosés et réjouissant à la vue. Nous fîmes choix d'un tertre élevé, où l'air était si vif que, du repas, il ne resta ni une croûte ni une verrée de boisson. Après quoi, le grand bûche se sentant tout gaillard, prit sa musette, qui ne le quittait jamais, et dit à Joseph. « Mon enfant, on ne sait qui vit ou qui meurt. Nous nous quittons, selon toi, pour 2 ou 3 jours. Selon moi, tu as l'idée d'une plus longue départie. Mais peut-être que, selon Dieu, nous ne devrons point nous revoir. Voilà ce qu'il faut toujours se dire quand, au croisement d'un chemin, chacun tire de son côté. J'espère que tu t'en vas content de moi et de mes enfants, comme je suis content de toi et de tes amis qui sont là. Mais je n'oublie point que le principal a été de t'enseigner la musique, et j'ai regret aux 2 mois de maladie qui t'ont forcé de t'arrêter. Je ne prétends pas que j'aurais pu faire de toi un grand savant. Je sais qu'il y en a dans les villes, messieurs et dames, qui sonnent sur des instruments que nous ne connaissons pas, et qui lisent des airs écrits comme on lit la parole écrite dans les livres. Sauf le plein chant, que j'ai appris dans ma jeunesse, je ne connais pas beaucoup cette musique-là, et t'en ai montré tout ce que je savais, c'est-à-dire les clés, les notes et la mesure. Quand tu auras envie d'en connaître plus long, tu iras dans les grandes villes, où les violoneurs t'apprendront le menuet et la contredanse. Mais je ne sais pas si ça te servira, à moins que tu ne veuilles quitter ton pays et ta condition de paysan. « Dieu m'en garde !» répondit Joseph en regardant Brulette. « Or donc, reprit le grand bûcheux, tu trouveras ailleurs l'instruction qu'il te faut pour sonner la musette ou la vielle. Si tu veux revenir à moi, je t'y aiderai. Si tu crois trouver du nouveau dans le pays d'Ansus, il faut y aller. Tout ce que j'aurais souhaité, c'est de te mener tout doucement, jusqu'au temps où ton souffle saura se donner sans effort, et où tes doigts ne se tromperont plus. Car pour l'idée, ça ne se donne point, et tu as la tienne que je sais être de bonne qualité. Je ne t'ai pas épargné la provision que j'ai dans la tête, et ce que tu auras retenu, tu t'en serviras s'il te plaît. Mais, comme ton vouloir est de composer, tu ne peux mieux faire que de voyager un jour ou l'autre pour tirer la comparaison de ton fond avec celui d'autrui. Il te faut donc monter jusqu'à l'Auvergne et au Forez, afin de voir, de l'autre côté de nos vallons, comme le monde est grand et beau, et comme le cœur s'élargit quand, du haut d'une vraie montagne, on regarde rouler des eaux vives qui couvrent la voie des hommes et font verdir des arbres qui ne déverdissent jamais. Ne descends pourtant guère dans les plaines des autres pays. tu y retrouverais ce que tu aurais laissé dans les tiennes. Car voici le moment de te donner un enseignement que tu ne dois pas oublier. Écoute-le donc bien fidèlement. » Fin de la 16e veillée. Enregistré par Nadine Eckert Boulet. Dix-septième veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert Boulet. Les maîtres sonneurs de George Sand. Dix-septième veillée. Le grand bûcheux, s'étant assuré que Joseph lui donnait bonne attention, poursuivit ainsi son discours. La musique a deux modes que les savants, comme j'ai ouï dire, appellent majeur et mineur, et que j'appelle, moi, mode clair et mode trouble, ou, si tu veux, mode de ciel bleu et mode de ciel gris, ou encore, mode de la force ou de la joie, et mode de la tristesse ou de la songerie. Tu peux chercher jusqu'à demain, tu ne trouveras pas la fin des oppositions qu'il y a entre ces deux modes, non plus que tu n'en trouveras un troisième. Car tout, sur la terre, est ombre ou lumière, repos ou action. Or, écoute bien toujours, Joseph. La plaine chante en majeur et la montagne en mineur. Si tu étais resté en ton pays, tu aurais toujours eu des idées dans le mode clair et tranquille, et, en y retournant, tu verras le parti qu'un esprit comme le tien peut tirer de ce mode, car l'un n'est ni plus ni moins que l'autre. Mais, comme tu te sentais musicien complet, tu étais tourmenté de ne pas entendre sonner le mineur à ton oreille. Vos ménétriers et vos chanteuses l'ont par acquis, parce que le chant est comme l'air qui souffle partout et transporte le germe des plantes d'un horizon à l'autre. Mais, de ce que la nature ne les a pas fait songeurs et passionnés, les gens de ton pays se servent mal du ton triste et le corrompent en y touchant. Voilà pourquoi il t'a semblé que vos cornemuses jouaient faux. Donc, si tu veux connaître le mineur, va le chercher dans les endroits tristes et sauvages, et sache qu'il faut quelquefois verser plus d'une larme avant de se bien servir d'un mode qui a été donné à l'homme pour se plaindre de ses peines, ou tout au moins pour soupirer ses amours. Joseph comprenait si bien le grand bûcheux qu'il le pria de jouer le dernier air qu'il avait inventé pour nous donner échantillon de ce mode gris et triste qu'il appelait le mineur. « Oui, da, mon garçon, dit le vieux, tu l'as donc guetté, l'air que je m'essaye d'emmancher sur des paroles depuis une huitaine ? Je pensais bien l'avoir chanté pour moi seul, mais puisque tu étais aux écoutes, le voilà tel que je compte le laisser. » Et, démanchant sa musette, il en sépara le hautbois, dont il joua très doux un air qui, sans être chagrinant, donnait à l'esprit souvenir ou attente de toutes sortes de choses, à l'idée de chacun qui l'écoutait. Joseph ne se sentait pas d'aise pour la beauté de l'air, et Brulette, qui l'entendit sans bouger, parut s'éveiller d'un songe quand il fut fini. « Et les paroles, dit Thérence, sont-elles tristes aussi, mon père ?»« Les paroles, répondit-il, sont comme l'air, un peu embrouillantes et portant réflexion. C'est l'histoire du tintouin de trois galants autour d'une fille. » Et il chanta une chanson, aujourd'hui répandue en notre pays, mais dont on a dérangé beaucoup les paroles. La voilà telle que le grand bûcheux la disait. Trois fendeux y avait, au printemps, sur l'herbette, j'entends le rossignolet, trois fendeux y avait, parlant à la fillette. Le plus jeune disait, celui qui tient la rose, j'entends le rossignolet, le plus jeune disait, j'aime bien, mais je n'ose. Le plus vieux s'écriait, celui qui tient la fende, j'entends le rossignolet, le plus vieux s'écriait, quand j'aime, je commande. Le troisième chantait, portant la fleur d'amande, j'entends le rossignolet. Le troisième chantait, moi, j'aime et je demande. Mon ami ne serait, vous qui portez la rose, j'entends le rossignolet. Mon ami ne serait, si vous n'osez, je n'ose. Mon maître ne serait, vous qui tenez la fende, j'entends le rossignolet. Mon maître ne serait, amour ne se commande. Mon amant vous serait, vous qui portez l'amande. J'entends le rossignolet. Mon amant, vous serez, on donne à qui demande. Je goûtais beaucoup plus l'air ajusté avec les paroles que je n'avais fait la première fois, et j'en fus si content que je le demandais encore sur la musette. Mais le grand bûcheux, qui ne tirait pas vanité de ses œuvres, dit que ça n'en valait pas la peine, et nous joua d'autres airs, tantôt sur un mode, tantôt sur l'autre, et mêmement en les employant tous deux dans un même champ, enseignant à Joseph la manière de passer, à propos, du majeur dans le mineur et pareillement du second dans le premier. Si bien que les étoiles jetaient leur feu depuis longtemps et que nous ne sentions pas l'envie de nous retirer. Mêmement les gens de la ville et des environs s'assemblèrent au bas du ravin pour écouter, au grand contentement de leurs oreilles. Et plusieurs disaient « C'est un sonneur du Bourbonnais » et, qui plus est, un maître sonneur. Cela se connaît à la science, et pas un de chez nous n'y pourrait jouter. Tout en reprenant le chemin de l'auberge, le père Bastien continua de démontrer Joseph, et celui-ci, qui ne s'en lassait point, resta un peu en arrière de nous à l'écouter et à le questionner. Je marchais donc devant avec Thérence, qui, toujours très serviable et courageuse, m'aidait à remporter les paniers. Brulette, entre les deux couples, allait seule, rêvant à je ne sais quoi, comme elle en prenait le goût depuis quelques jours. Et Thérence se retournait souvent comme pour la regarder, mais, dans le vrai, pour voir si Joseph nous suivait. « Regardez-le donc bien, Thérence, » lui dis-je en un moment où elle en paraissait tout angoissée, « car votre père l'a dit. Quand on se quitte pour un jour, c'est peut-être pour toute la vie. » « Oui, » répondit-elle, « mais aussi quand on croit se quitter pour toute la vie, il peut se faire que ça ne soit que pour un jour. »« Vous me rappelez, » repris-je, « qu'en vous voyant, une fois, vous envoler comme une songerie de ma tête, je pensais bien ne vous retrouver jamais. »« Je sais ce que vous voulez dire, » fit-elle. « Mon père m'en a rafraîchi la souvenance, hier, en me parlant de vous. Car mon père vous aime beaucoup, Tiennet, et fait de vous une estime très grande. »« J'en suis content et honoré, Thérence. » Mais je ne sais guère en quoi je la mérite, car je n'ai rien de ce qui annonce un homme tant si peu différent des autres. Mon père ne se trompe pas dans ses jugements, et ce qu'il pense de vous, je le crois. Mais pourquoi, Tiennet, cela vous fait-il soupirer? Ai-je donc soupiré, Thérence? C'est malgré moi. Sans doute c'est malgré vous, mais ce n'est point une raison pour me cacher vos sentiments. Vous aimez Brulette et vous craignez... J'aime beaucoup Brulette, c'est vrai. Mais sans soupir d'amour, et sans regret ni souci de ce qu'elle pense à l'heure qu'il est. Je n'ai point d'amour dans le cœur, puisque ça ne me servirait de rien. « Ah, vous êtes bien heureux, Tiennet, » s'écria-t-elle, « de gouverner comme ça votre idée par la raison. Je vaudrais mieux, Thérence, si, comme vous, je la gouvernais par le cœur. Oui, oui, je vous devine et vous connais, allez, car je vous regarde et je trouve bien le fin mot de votre conduite. Je vois depuis 8 jours, comme vous savez vous mettre à l'écart pour la guérison de Joseph, et comme vous le soignez secrètement, sans qu'il y voie paraître le bout de vos mains. Vous le voulez heureux, et vous n'avez point menti en nous disant, à Brulette et à moi, que pourvu qu'on fît du bien à ceux qu'on aime, on n'avait pas besoin d'y trouver son profit. C'est bien comme ça que vous êtes, et malgré que la jalousie vous tourne quelquefois un peu le sang, vous en revenez tout de suite, et si saintement que c'est merveille de voir la force et la bonté que vous avez. Convenez donc que si l'un de nous doit faire estime de l'autre, c'est moi de vous, et non pas vous de moi. Je suis un garçon assez raisonnable, voilà tout, et vous êtes une fille d'un grand cœur et d'une rude gouverne d'elle-même. Merci pour le bien que vous pensez de moi, répondit Thérence, mais peut-être que je n'y ai pas tant de mérite que vous croyez, mon brave garçon. Vous voulez me voir amoureuse de Joseph? Cela n'est point. Aussi vrai que Dieu est mon juge, je n'ai jamais pensé à être sa femme, et la tâche que j'ai pour lui serait plutôt celle d'une sœur ou d'une mère. Oh, pour cela, je ne suis pas bien sûre que vous ne vous trompiez pas sur vous-même, Thérence. Votre naturel est emporté. C'est pour ça, justement, que je ne me trompe point. J'aime vivement et quasiment follement mon père et mon frère. Si j'avais des enfants, je les défendrais comme une louve et les couverais comme une poule. Mais ce qu'on appelle l'amour, ce que, par exemple, mon frère sent pour Brulette, l'envie de plaire, et un je-ne-sais-quoi qui fait qu'on s'ennuie seul et qu'on ne peut penser sans souffrance à ce qu'on aime, je ne le sens point, et ne m'en embarrasse point l'esprit. Que Joseph nous quitte pour toujours s'il doit s'en trouver bien, j'en remercie Dieu, et ne me désolerai que s'il doit s'en trouver mal. » La manière dont Thérence pensait me donnait bien à penser aussi. Je n'y comprenais plus grand-chose, tant elle me paraissait au-dessus de tout le monde et de moi-même. Je marchais encore un bout de chemin auprès d'elle sans lui rien dire, et ne sachant guère où s'en allait mon esprit. Car il me prenait pour elle des bouffées d'amitié, comme si j'allais l'embrasser d'un grand cœur et sans songer à mal. Puis, tout d'un coup, je la voyais si jeune et si belle qu'il me venait comme de la honte et de la crainte. Quand nous fûmes arrivés à l'auberge, je lui demandai, je ne sais à propos de quelle idée qui me vint, ce qu'au juste son père lui avait dit de moi. « Il a dit, répondit-elle, que vous étiez l'homme du plus grand bon sens qu'il eût jamais connu. » « Autant vous dire une bonne bête, pas vrai ? » repris-je en riant, un peu mortifié. « Non, pas, répliqua Thérence. Voilà les propres paroles de mon père. Celui qui voit le plus clair dans les choses de ce monde est celui qui agit avec le plus de justice. Or donc, le grand bon sens fait la grande bonté, et je ne crois point que mon père se trompe. « En ce cas, Thérence, m'écriai-je un peu secoué dans le fond du cœur, ayez un peu d'amitié pour moi. »« J'en ai beaucoup, répondit-elle en me serrant la main que je lui tendais. » Mais cela fut dit d'un air de franc camarade qui rabattait toute fumée, et je dormis là-dessus sans plus d'imagination qu'il n'en fallait avoir. Le lendemain, quand vint l'heure des adieux, Brulette pleura en embrassant le grand bûcheux, et lui fit promettre qu'il viendrait nous voir chez nous avec Thérence. Et puis, ces deux belles filles se firent si grandes caresses et assurances d'amitié qu'elles ne se pouvaient quitter. Joseph présenta ses remerciements à son maître pour tout le bien et le profit qu'il en avait reçu, et quand ce fut au tour de Thérence, il essaya de lui rendre les mêmes grâces. Mais elle le regarda d'un air de franchise qui le troubla, et, se serrant la main, ils ne dirent guère mieux que « À revoir, portez-vous bien !» Ne me sentant pas trop honteux, je demandai à Thérence licence de l'embrasser, pensant en donner le bon exemple à Joseph. Mais il n'en profita point, et monta vitement sur la voiture pour couper court aux accolades. Il était comme mécontent de lui et des autres. Brulette se plaça tout au fond de la charrette, et tant qu'elle put voir nos amis du Bourbonnais, elle les suivit des yeux, tandis que Thérence, debout sur la porte, paraissait songer plutôt que se désoler. Nous fîmes assez tristement quasi tout le reste du chemin. Joseph ne disait mot. Il eût peut-être souhaité que Brulette s'occupât un peu de lui. Mais à mesure que Joseph avait repris ses forces, Brulette avait repris sa liberté de penser à celui qui mieux lui plaisait, et, reportant bonne part de ses amitiés sur le père et la sœur d'Uriel, elle songeait à eux et en causait avec moi, pour les louer et les regretter. Et, comme si elle eût laissé tous ses esprits derrière elle, elle regrettait aussi le pays que nous venions de quitter. « C'est chose étrange, me disait-elle, comme je trouve, à mesure que nous approchons de chez nous, que les arbres sont petits, les herbes jaunes, les eaux endormies. Avant d'avoir jamais quitté nos plaines, je m'imaginais ne pas pouvoir me supporter 3 jours dans des bois. Et, à cette heure, il me semble que j'y passerais ma vie aussi bien que Thérence, si j'avais mon vieux père avec moi. « Je ne peux pas en dire autant, cousine, lui répondis-je. Pourtant, s'il le fallait, je pense que je n'en mourrais point. Mais que les arbres soient tant grands, les herbes tant vertes et les eaux tant vives qu'elles voudront, j'aime mieux une ortie en mon pays qu'un chêne en pays d'étrangers. Le cœur me saute de joie à chaque pierre et à chaque buisson que je reconnais, comme si j'étais absent depuis 2 ou 3 ans. Et quand je vas apercevoir le clocher de notre paroisse, je lui veux, pour sûr, bailler un bon coup de chapeau. « Et toi, José ?» dit Brulette, qui prit enfin garde à l'air ennuyé de notre camarade. « Toi qui es absent depuis plus d'une année, n'es-tu pas content d'approcher de ton endroit ?»« Excuse-moi, Brulette, répondit Joseph, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'avais dans la tête de me souvenir de la chanson du grand bûcheux, et il y a, au milieu, une petite revirade que je ne peux pas rattraper. Bah, dit Brulette, c'est quand la chanson dit « J'entends le rossignolet ». Et, le disant, elle le chanta tout au juste, ce dont Joseph, comme réveillé, sauta de joie sur la charrette en frappant ses mains. « Ah, Brulette, dit-il, que tu es donc heureuse de te souvenir comme ça. Encore, encore, j'entends le rossignolet. » J'aime mieux dire toute la chanson, fit-elle, et elle nous la chanta tout entière sans en omettre un mot. Ce qui mit Joseph en si grande joie qu'il lui serra les mains en lui disant avec un courage dont je ne l'aurais pas cru capable qu'il n'y avait qu'un musicien pour être digne de son amitié. « Le fait est, dit Brulette, qui songeait à Uriel, que si j'avais un bon ami, je le souhaiterais beau sonneur et beau chanteur. »« Il est rare d'être l'un et l'autre, reprit Joseph. La sonnerie casse la voix, et sauf le grand bûcheux, et son fils, dit Brulette, parlant à l'étourdie. Je lui poussai le coude, et elle voulut parler d'autre chose. Mais Joseph, qui n'était pas sans être mordu de jalousie, revint sur la chanson. « Je crois, dit-il, que quand le père Bastien l'a mise en parole, il a songé à 3 garçons de notre connaissance. Car je me souviens d'une causerie que nous avons eue avec lui à souper, le jour de votre arrivée dans les bois. Je ne m'en souviens pas, dit Brulette en rougissant. Si fait moi, reprit Joseph. On parlait de l'amour des filles, et Huriel disait que cela ne se gagnait point à croix ou pile. Tiennet assurait, en riant, que la douceur et la soumission ne servaient de rien, et que, pour être aimé, il fallait plutôt se faire craindre que d'être trop bon. Huriel reprit pour contredire Tiennet, et moi j'écoutais sans parler. Ne serait-ce pas moi, celui qui porte la rose, le plus jeune des trois? Il aime, mais il n'ose. Dites donc le dernier couplet, Brulette, puisque vous le savez si bien. N'y a-t-il pas, on donne à qui demande? Puisque tu le sais aussi bien que moi, dit Brulette un peu piquée, retiens-le pour le chanter à la première bonne amie que tu auras. S'il plaît au grand bûcheux de mettre en chanson les discours qu'il entend, ce n'est pas à moi d'en tirer la conséquence. Je n'y entends encore rien pour ma part. Mais j'ai les fourmis dans les pieds, et, pendant que le cheval monte la côte, je veux me dégourdir un peu. Et, sans attendre que j'eusse repris les rênes pour arrêter le cheval, elle sauta sur le chemin et se mit à marcher en avant, aussi légère qu'une bergeronnette. J'allais descendre aussi. Joseph me retint par le bras et, toujours suivant son idée, « N'est-ce pas, dit-il, qu'on méprise également ceux qui marquent trop leur vouloir et ceux qui ne le marquent pas du tout ?»« Si c'est pour moi que tu dis ça. » »« Je ne dis ça pour personne. Je reprends la causerie que nous avions là-bas et qui s'est tournée en chanson contre tes paroles et contre mon silence. » Il paraît que c'est Huriel qui a gagné le procès auprès de la fillette. « Quelle fillette ? » dis-je impatienté. Car Joseph n'avait point mis sa confiance en moi jusqu'à cette heure, et je ne lui savais point de gré de me la donner par dépit. « Quelle fillette ? » reprit-il d'un air de moquerie chagrine. « Celle de la chanson. » « Eh bien, quel procès Huriel a-t-il gagné ? Cette fillette-là demeure donc bien loin, puisque le pauvre garçon est parti pour le Forez ?» Joseph resta un moment à songer, puis il reprit. Il n'en est pas moins vrai qu'il avait raison, quand il disait qu'entre le commandement et le silence, il y avait la prière. Ça revient toujours un peu à ton premier dire, qui était que, pour être écouté, il ne faut point trop aimer. Celui qui aime trop est craintif. Il ne se peut arracher une parole du ventre, et on le juge sot parce qu'il est transi de désir et de honte. Sans doute, répondis-je, j'ai passé par là en maintes occasions. Mais il m'est quelquefois arrivé de si mal parler que j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais pu me flatter plus longtemps. Le pauvre Joseph se mordit la langue et ne parla plus. J'eus regret de l'avoir fâché, et, cependant, je ne me pouvais défendre de trouver sa jalousie bien mal plantée sur le terrain d'Huriel, étant à ma connaissance que ce garçon l'avait servi de son mieux, à son propre détriment, et je pris, de ce moment, la jalousie en si mauvaise estime que, depuis, je n'en ai plus jamais senti la piqûre, et ne l'aurais senti, je crois, qu'à bonnes enseignes. J'allais cependant lui parler plus doucement, quand nous vîmes que Brulette, qui marchait toujours devant, s'était arrêtée au bord du chemin pour parler avec un moine qui me semblait gros et court comme celui dont nous avions fait connaissance au bois de Chambéra. Je fouaillais le cheval et je m'assurais que c'était bien le même frère Nicolas. Il avait demandé à Brulette s'il était loin de notre bourg, et, comme il s'en fallait encore d'une petite lieue et qu'il se disait bien fatigué, elle lui avait fait offre de monter sur notre voiture pour gagner l'endroit. Nous lui fîmes place, ainsi qu'à un grand corbillon couvert qu'il portait, et qu'il posa, avec précaution, sur ses genoux. Aucun de nous ne songea à lui demander ce que c'était, excepté moi, peut-être, qui suis d'un naturel un peu curieux, mais j'aurais craint de manquer à l'honnêteté que je lui devais, car les frères quêteurs ramassaient dans leurs courses toutes sortes de choses qu'ils se faisaient donner par la dévotion des marchands et qu'ils revendaient ensuite au profit de leur couvent. Tout leur était bon pour ce commerce, mêmement des affiquets de femmes qu'on était quelquefois bien étonné de voir dans leurs mains et dont quelques-uns n'osaient pas trafiquer ouvertement. Je repris le trot et bientôt nous avisâmes le clocher et puis les vieux ormeaux de la place et puis toutes les maisons grandes et petites du bourg qui ne me firent pas autant de plaisir que je m'en étais promis, la rencontre de frère Nicolas m'ayant remis en mémoire des choses tristes et qui me donnaient un restant d'inquiétude. Je vis cependant qu'il était sur ses gardes aussi bien que moi, car il ne me dit pas un mot devant Brulette et Joseph, qui put faire croire que nous nous étions vus ailleurs qu'à la fête, et que lui ou moi en savions plus long que bien d'autres sur ce qui s'y était passé. C'était un homme agréable et d'humeur joviale, qui m'aurait pourtant diverti dans un autre moment. Mais j'étais pressée d'arriver et de me trouver seule avec lui, pour lui demander s'il avait eu, de son côté, quelques nouvelles de l'aventure. À l'entrée du bourg, Joseph sauta à terre, et, quelque chose que Brulette put lui dire pour le faire venir se reposer chez son père, il prit le chemin de Saint-Chartier, disant qu'il viendrait saluer le père Brulet quand il aurait vu et embrassé sa mère. Il me sembla que le carme l'y poussait comme à son premier devoir, mais avec l'envie de le faire partir. Et puis, au lieu d'accepter l'offre que je lui fis de venir souper et coucher en mon logis, il me dit qu'il s'arrêterait seulement une heure en celui du père Brulet, à qui il avait affaire. « Vous serez le bienvenu, lui dit Brulette. Mais connaissez-vous donc mon grand-père? Je ne vous ai encore jamais vu chez nous. » « Je ne connais ni votre endroit ni votre famille, répondit le moine, mais je suis pourtant chargé d'une commission que je ne peux dire que chez vous. » Je revins à mon idée qu'il avait, dans son panier, des dentelles ou des rubans à vendre, et qu'ayant ouï dire aux environs que Brulette était la plus pimpante de l'endroit, outre qu'il l'avait vue très requinquée à la fête de Chambérat, il souhaitait lui montrer sa marchandise, sans s'exposer à la critique qui, dans ce temps-là, n'épargnait guère ni bon ni mauvais moine. Je pensais que c'était aussi l'idée de Brulette, car, lorsqu'elle descendit la première devant sa porte, elle tendit les deux mains pour prendre la corbeille, lui disant « Ne craignez rien, je me doute de ce que c'est. » Mais le carme refusa de s'en séparer, disant, de son côté, que c'était de valeur et craignait la casse. « Je vois, mon frère, lui dis-je tout bas, en le retenant un peu, que vous voilà bien affairé. Je ne vous veux point déranger, c'est pourquoi je vous prie de me dire vite s'il y a du nouveau pour l'affaire de là-bas. » « Rien que je sache, me dit-il en parlant d'eux-mêmes. Point de nouvelles, bonne nouvelle. » Et, me secouant la main avec amitié, il entra en la maison de Brulette, où déjà elle était pendue au cou de son grand-père. Je pensais que ce vieux, qui d'ordinaire était fort honnête, me devait quelque bon accueil et beau remerciement pour le grand soin que j'avais eu d'elle. Mais, au lieu de me retenir un moment, comme s'il eût été encore plus pressé de l'arrivée du carme que de la nôtre, il le prit par la main et le conduisit au fond de la maison, en me disant qu'il me priait de l'excuser s'il avait besoin d'être seul avec sa fille pour des affaires de conséquence. Fin de la 17e veillée. Enregistrée par Nadine et Kurt Boulet. Dix-huitième veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet. Les maîtres sonneurs de George Sand. Dix-huitième veillée. Je ne suis pas beaucoup choquable, et cependant je me trouvais choqué d'être si mal reçu, et m'en fut chez nous remiser ma carriole et m'informer de ma famille. Et puis, la journée étant trop avancée pour se mettre au travail, je dévalais par le bourg pour voir si chaque chose était en sa place et n'y trouvais aucun changement, sinon qu'un des arbres couchés sur le communal, devant la porte du sabotier, avait été débité en sabots et que le père Godard avait ébranché son peuplier et mis de la tuile neuve sur son courtil. J'avais cru que mon voyage dans le Bourbonnais aurait fait plus de bruit. Et je m'attendais à tant de questions que j'aurais fort à faire d'y répondre. Mais le monde de chez nous est très indifférent, et pour la première fois, je m'avisai qu'il était même endormi à toute chose, car je fus obligé d'apprendre à plusieurs que j'arrivais de loin. Ils ne savaient seulement point que je me fusse absenté. Vers le soir, comme je retournais à mon logis, je rencontrai le carme qui s'en allait à la châtre, et qui me dit, de la part du père Brulet, qu'il me voulait avoir à souper. Qui fut bien étonné, en entrant chez Brulette, ce fut moi, d'y trouver le grand-père, assis d'un côté et la belle de l'autre, regardant sur la table, entre deux, la corbeille du moine ouverte et remplie d'un gros gars d'environ un an, assis sur un coussin et s'essayant à manger des guignes noires dont il s'embarbouillait tout le museau. Brulette me sembla d'abord très pensive et même triste, mais quand elle vit mon étonnement, elle ne se put retenir de rire. Après quoi elle s'essuya les yeux, et me parut avoir versé quelques larmes, plutôt de chagrin ou de dépit, que de gaieté. « Allons, dit-elle enfin, ferme la porte et nous écoute. Voilà mon père qui veut te mettre au fait du beau cadeau que le moine nous a apporté. Vous saurez, mon neveu, dit le père Brulet, qui jamais ne riait d'aucune chose plaisante, non plus qu'il ne se troublait d'aucun souci, que voilà un enfant orphelin dont nous nous sommes arrangés avec le carme pour prendre soin, moyennant pension. Nous ne connaissons à cet enfant ni père, ni mère, ni pays, ni rien. Il s'appelle Charlot, voilà tout ce que nous en savons. La pension est bonne, et le carme nous a donné la préférence pour ce qu'il avait rencontré ma fille en Bourbonnais. Et, comme il lui avait été dit d'où elle était, et que c'était une personne bien comme il faut, n'ayant pas grand bien, mais n'étant chargée d'aucune misère et pouvant disposer de son temps, il a pensé à lui faire plaisir et à lui rendre service en lui donnant la garde et le profit de ce marmot. Encore que la chose fût assez étonnante, je ne m'en étonnais pas dans le premier moment, et demandais seulement si ce carme était anciennement connu du père Brulet, pour qu'il eût fiance en ses paroles au sujet de la pension. « Je ne l'avais jamais vu, dit-il, mais je sais qu'il est venu plusieurs fois dans les environs, et qu'il est connu de gens dont je suis sûr, et qui m'avaient déjà annoncé de sa part, il y a 2 ou 3 jours, l'affaire dont il me voulait parler. D'ailleurs, 1 année de la pension est payée par avance, et quand l'argent manquera, il sera temps de s'en tourmenter. À la bonne heure, mon oncle, vous savez ce que vous avez à faire. Mais je ne me serais pas attendu à voir ma cousine, qui aime tant sa liberté, s'embarrasser d'un marmot qui ne lui est de rien, et qui, sans vous offenser par conséquent, n'est pas bien gentil dans son apparence. Voilà ce qui me fâche, dit Brulette, et ce que j'étais en train de dire à mon père quand tu es entré séant. Et elle ajouta, en frottant le bec du petit avec son mouchoir, j'ai beau l'essuyer, il n'en a pas la bouche mieux fendue, et j'aurais pourtant souhaité faire mon apprentissage avec un enfant agréable à caresser. Celui-ci paraît de mauvaise humeur et ne répond à aucune risée. Il ne regarde que la mangeaille. Bah, dit le père Brulet, il n'est pas plus vilain qu'un autre enfant de son âge, et quant à devenir mignon, c'est ton affaire. Il est fatigué d'avoir voyagé et ne sait point où il en est, ni ce qu'on lui veut. Le père Brulet étant sorti pour aller chercher son couteau, qu'il avait laissé chez la voisine, je commençais à m'étonner davantage en me trouvant seule avec Brulette. Elle paraissait contrariée par moments, et même peinée pour tout de bon. Ce qui me tourmente, dit-elle, c'est que je ne sais point soigner un enfant. Je ne voudrais pas laisser souffrir une pauvre créature qui ne se peut aider en rien, mais je m'y trouve si maladroite que j'ai regret d'avoir été jusqu'à cette heure peu portée à m'occuper de ce petit monde-là. En effet, lui dis-je, tu ne me parais point née à ce métier. Et je ne comprends pas que ton grand-père, lequel je n'ai jamais connu intéressé, te donne une pareille charge pour quelques écus de plus au bout de l'année. « Tu parles comme un riche, » reprit-elle. « Songe que je n'ai rien en dos, et que la peur de la misère est ce qui m'a toujours détourné du mariage. » « Voilà une mauvaise raison, Brulette, car tu as été, et tu seras encore, recherchée par de plus riches que toi, qui t'aiment pour tes beaux yeux et ton joli ramage. » « Mes beaux yeux passeront, et mon joli ramage ne me servira de rien quand la beauté s'en ira. » Je ne veux pas qu'on me reproche, au bout de quelques années, d'avoir dépensé ma dot d'agrément et de n'en avoir pas apporté une plus solide dans le ménage. C'est donc que tu penses pour de bon à te marier, depuis que nous sommes revenus du Bourbonnais? Voici la première fois que je t'entends faire des projets d'épargne. Je n'y pense pas plus que je n'y pensais, répondit-elle d'un ton moins assuré qu'à l'ordinaire. Mais je n'ai jamais dit que je voulusse rester fille. « si fait, tu penses à t'établir ?» lui dis-je en riant. « Tu n'as pas besoin de t'en cacher avec moi, je ne te demande plus rien. Et ce que tu fais en te chargeant de ce petit malheureux riche que voilà, lequel a des écus et point de mère, me marque bien que tu veux faire ton Muriot. Sans cela, ton grand-père, que tu as toujours gouverné comme s'il était ton petit-fils, ne t'aurait pas forcé la main pour prendre un pareil gars en sevrage. » Brulette prit alors l'enfant pour l'ôter de dessus la table et mettre le couvert, et, en le portant sur le lit de son grand-père, elle le regarda d'un air fort triste. « Pauvre Charlot, dit-elle, je ferai bien pour toi mon possible, car tu es à plaindre d'être venu au monde, et m'est avis qu'on ne t'y avait point souhaité. » Mais sa gaieté fut vite revenue, et mêmement elle eut de grandes risées à souper, en faisant manger Charlot, qui avait l'appétit d'un petit loup, et répondait à toutes ses prévenances en lui voulant griffer la figure. Sur les 8 heures du soir, Joseph entra et fut bien accueilli du père Brulet. Mais j'observai que Brulette, qui venait de remettre Charlot sur le lit, tira vitement la courtine comme pour le cacher, et parut tourmentée tout le temps que Joseph demeura. J'observai aussi qu'il ne lui fut pas dit un mot de cette singulière trouvaille, ni par le vieux ni par Brulette, et je pensais devoir m'en taire pareillement pour leur complaire. Joseph était chagrin et répondait le moins possible aux questions de mon oncle. Brulette lui demanda s'il avait trouvé sa mère en bonne santé et si elle avait été bien surprise et bien contente de le voir. Et, comme il disait oui tout court à chaque chose, elle lui demanda encore s'il ne s'était pas trop fatigué en allant à Saint-Chartier, de son pied, et en revenant le soir même. « Je ne voulais point passer la journée, dit-il, sans rendre mes devoirs à votre grand-père, et, à présent, je me sens fatigué pour de vrai et m'en irai passer la nuit chez Tiennet, si je ne le dérange point. » Je lui répondis qu'il me ferait plaisir et l'emmenai à la maison où, quand nous fûmes couchés, il me dit « Tiennet, me voilà autant sur mon départ comme sur mon arrivée. Je ne suis venu au pays que pour quitter le bois de l'Alleu, qui m'était tourné en déplaisance. » Et c'est le tort que tu as, Joseph. Tu étais là, chez des amis qui remplaçaient ceux que tu avais quittés. Enfin, c'est mon idée, dit-il un peu sèchement. Mais, prenant un ton plus doux, il ajouta. Tiennet, Tiennet, il y a des choses qu'on peut dire, et il y en a aussi qu'on doit taire. Tu m'as fait du mal aujourd'hui, en me donnant à entendre que je ne serai peut-être jamais agréé de Brulette. Joseph, je ne t'ai rien dit de pareil, par la raison que je ne sais point si tu songes à ce que tu dis là. « Tu le sais, reprit-il, et mon tort est de n'en avoir jamais ouvert mon cœur avec toi. Mais que veux-tu? Je ne suis point de ceux qui se confessent aisément, et les choses qui me tracassent le plus sont celles dont je m'explique le moins volontiers. C'est mon malheur, et je crois que je n'ai point d'autre maladie qu'une idée toujours tendue aux mêmes fins, et toujours rentrée au moment qu'elle me vient sur les lèvres. Écoute-moi donc pendant que je peux causer. » Car Dieu sait pour combien de temps je vais redevenir muet. J'aime, et je vois que je ne suis point aimé. Il y a si longues années qu'il en est ainsi, car j'aimais déjà Brulette alors qu'elle était une enfant, que je suis accoutumé à ma peine. Je ne me suis jamais flatté de lui plaire, et j'ai vécu avec la croyance qu'elle ne ferait jamais attention à moi. À présent, j'ai vu par sa venue en Bourbonnais que j'étais quelque chose pour elle, et c'est ce qui m'a rendu la force et la volonté de ne point mourir. Mais je sais très bien qu'elle a vu là-bas quelqu'un qui lui conviendrait mieux que moi. Je n'en sais rien, répondis-je. Mais si cela était, ce quelqu'un-là ne t'aurait pas donné sujet de plainte ou de reproche. C'est vrai, reprit Joseph, mon dépit est injuste. D'autant plus qu'Uriel, connaissant Brulette pour une honnête fille, et n'étant pas en position de se marier avec elle, tant qu'il sera de la confrérie des muletiers, a, de lui-même, fait ce qu'il devait faire en s'éloignant d'elle pour longtemps. Je peux donc avoir espérance de me revenir présenter à Brulette, un peu plus méritant que je ne le suis. À cette heure, je ne me puis souffrir ici, car je sens que je n'y apporte rien de plus que par le passé. Il y a quelque chose dans l'air et dans les paroles de chacun qui me dit « Tu es malade, tu es maigre, tu es laid, tu es faible, et tu ne sais rien de bon ni de neuf pour nous intéresser à toi. » Oui, Tiennet, ce que je te dis est certain. Ma mère a eu comme peur de ma figure en me voyant paraître, et elle a versé tant de larmes en m'embrassant que la peine y était pour plus que la joie. Ce soir encore, Brulette a eu l'air embarrassé en me voyant chez elle, et son grand-père, tout brave homme et bon ami qu'il est pour moi, a paru inquiet si j'allongerais ou non sa veillée. Ne dis pas que je me suis imaginé tout cela. Comme tous ceux qui parlent peu, je vois beaucoup. Mon temps n'est donc pas venu. Il faut que je parte, et le plus tôt sera le mieux. « Je crois, lui dis-je, qu'il faudrait au moins prendre quelques journées pour te reposer, car m'est avis que tu veux t'éloigner beaucoup d'ici, et je ne trouve pas de bonne amitié que tu nous mettes sur ton compte dans des inquiétudes que tu nous pourrais épargner. »« Sois tranquille, Tiennet, répondit-il. J'ai la force qu'il faut, et ne serai plus malade. Je sais une chose à présent, c'est que les corps chétifs, à qui Dieu n'a pas donné grand ressort, sont pourvus d'un vouloir qui les mène mieux que la grosse santé des autres. » Je n'ai rien inventé quand je vous ai dit là-bas que j'avais été comme renouvelée en voyant Uriel se battre si hardiment, et que, tout éveillé, dans la nuit, j'avais ouï sa voix me dire « Sus, sus, je suis un homme, et tant que tu n'en seras pas un, tu ne compteras pour rien. » Je me veux donc départir de ma pauvre nature et revenir ici aussi bon à voir et meilleur à entendre que tous les galants de Brulette. Mais, lui dis-je encore, si elle fait son choix avant ton retour, la voilà qui prend 19 ans, et pour une fille courtisée comme elle l'est, il est temps qu'elle se décide. Elle ne se décidera que pour Huriel ou pour moi, répondit Joseph d'une voix assurée. Il n'y a que lui ou moi qui soyons faits pour lui donner de l'amour. Excuse-moi, Tiennet, je sais, ou tout au moins je crois que tu y as songé.
Oui, répondis-je, mais je n'y songe plus.
Eh bien, tu fais, dit Joseph, car tu n'aurais point été heureux avec elle. Elle a des goûts et des idées qui ne sont pas du terrain où elle a fleuri, et il faut qu'un autre vent la secoue.
Celui qui souffle ici n'est pas assez subtil et ne pourrait que la dessécher.
Elle le sent bien, malgré qu'elle ne le sache point dire, et je te réponds que si Huriel ne me trahit point, je la retrouverai libre dans un an et même dans deux.
Là-dessus, Joseph, comme épuisé de s'être abandonné si longtemps, laissa retomber sa tête sur l'oreiller et s'endormit. Il y avait bien une heure que je me débattais pour ne pas lui en donner l'exemple, car j'étais là tout mon soûl. Mais quand, à la levée du jour, j'appelai Joseph, rien ne me répondit. Je le cherchais, il était parti sans réveiller personne. Brulette alla, dans le jour, voir la Mariton, disant que c'était pour lui apprendre doucement la chose et savoir ce qui s'était passé entre elle et son fils. Elle ne voulut point de ma compagnie pour cette visite, et me dit au retour qu'elle n'avait pu beaucoup la faire expliquer, parce que son maître Benoît était malade et même en danger pour un coup de sang. J'augurais que cette femme, obligée de soigner son bourgeois, n'avait pas pu, la veille, s'occuper de son garçon autant qu'elle l'aurait souhaité, et que Joseph en avait pris de la jalousie, comme son naturel annonçait de s'y porter en toute chose. « Cela est vrai, me dit Brulette, à mesure que Joseph s'est déniaisé par l'ambition, il est devenu exigeant, et je crois que je l'aimais mieux, simple et soumis comme il était d'abord. » Et comme je racontais à Brulette tout ce qu'il m'avait dit la veille avant de s'endormir, « S'il a un si beau vouloir, dit-elle, nous ne ferions que le contrarier en nous tourmentant de lui plus qu'il ne souhaite. Qu'il s'en aille donc à la garde de Dieu. Si j'étais une coquette mauvaise, comme tu me l'as quelquefois reproché dans le temps, je serais fière d'être la cause que ce garçon en cherche si long pour élever son esprit et son sort. Mais cela n'est point, et je regrette plutôt qu'il n'agisse pas seulement en vue de sa mère et de lui-même. Mais n'a-t-il pas raison, pourtant, quand il dit que tu ne pourras choisir qu'entre Huriel et lui ? J'ai du temps pour penser à cela, dit-elle en riant des lèvres sans que sa figure en fût égayée, puisque voilà les deux seuls galants que Joseph me permette, s'enfuyant de moi de toutes leurs jambes. Pendant une semaine, l'arrivée de l'enfant que le moine avait apporté chez Brulette fit la nouvelle du bourg et le tourment des curieux. Il en fut bâti tant d'histoires que, pour un peu, Charlot aurait été le fils d'un prince, et chacun voulait emprunter de l'argent ou vendre des biens au père Brulet, estimant que la pension qui avait pu décider sa fille à un métier si contraire à ses goûts devait être le revenu d'une province à tout le moins. On s'étonna vite de voir que le vieux et la fillette ne changeaient rien à leur pauvre vie, ne quittaient point leur petit logis, et n'y ajoutaient qu'un berceau pour coucher l'enfant, et une écuelle pour lui faire sa soupe. Il en fallut donc rabattre. Mais des commères, qui n'en voulaient point avoir si tôt le démenti, commencèrent à critiquer mon oncle sur son avarice, et même à le blâmer, prétendant qu'on ne faisait pas, pour le soin de cet enfant, tout ce qui était dû en rapport d'un si gros profit. La jalousie des uns et le mécontentement des autres lui firent donc des ennemis qu'il n'avait jamais eus, dont bien il s'étonna, car il était homme simple et d'une si bonne religion qu'il n'avait pas seulement prévu qu'une telle chose ferait tant parler. Mais Brulette n'en fit que rire et lui persuada de n'y point donner attention. Cependant, les jours et les semaines se suivirent, sans qu'il nous vînt aucune nouvelle de Joseph, d'Huriel, du grand bûcheux, ni de Thérence. Brulette envoya des lettres à Thérence, moi à Huriel, et il ne nous fut fait aucune réponse. Brulette s'en affligea et en prit même du dépit, si bien qu'elle me dit vouloir ne plus songer à des étrangers, qui n'avaient pas seulement mémoire d'elle, et ne lui retournaient pas l'amitié qu'elle leur avait avancée. Elle recommença donc à se faire belle et à se montrer aux danses, car les galants se tourmentaient de son air triste et du mal de tête dont elle se plaignait souvent depuis son voyage en Bourbonnais. Ce voyage même avait bien été un peu critiqué, et on avait dit qu'elle avait par là une amour cachée, soit pour Joseph, soit pour un autre. On souhaitait qu'elle se montrât encore plus aimable que de coutume, pour lui pardonner de s'être absentée sans consulter personne. Brulette était trop fière pour s'en tirer par des câlineries, mais le goût qu'elle avait pour le plaisir l'emportant de ce côté-là, elle essaya de confier la garde de Charlot à sa voisine, la mère Lamouche, et de se donner, comme par le passé, de l'étourdissement. Or, un soir que je revenais avec elle du pèlerinage de Vaudevant, qui est une grande fête, nous ouïmes Charlot brailler,
du plus loin que nous pouvions accourir vers la maison. Ce maudit gars, me dit Brulette, ne décote pas d'être en malice, et je ne sais qui serait capable de le gouverner. Es-tu sûre, lui dis-je, que la Lamouche en prend le soin qu'elle t'a promis? Sans doute, sans doute, elle n'a que ça à faire, et je l'en récompense de manière à la contenter. Mais Charlot braillait toujours, et la maison nous paraissait fermée comme si tout le monde en fût sorti. Brulette se mit de courir, et eut beau cogner à la porte de la voisine, personne ne répondit, sinon Charlot qui criait encore plus fort, soit de peur, soit d'ennui ou de rage. Je fus obligé de monter sur le chaume de la maison et de descendre en la chambre par la trappe du fenil. J'ouvris vitement la porte à Brulette et nous vîmes Charlot tout seul, se roulant dans les cendres où, par bonheur, il ne se trouvait plus de feu et violait comme une bête à force de hurler. « Oui, da, dit Brulette, est-ce ainsi qu'on garde ce pauvre petit malheureux? Allons, qui prend enfant, prend maître. J'aurais dû le savoir et ne me point charger de celui-ci ou renoncer à tout divertissement. » Elle emporta Charlot en son logis, moitié apitoyé, moitié impatienté, et, l'ayant lavé, repu et reconsolé de son mieux, elle le mit dormir et s'assit bien soucieuse, la tête dans ses mains. J'essayai de lui remontrer qu'il n'était pas malaisé, en faisant le sacrifice de l'argent qu'elle empochait, de confier ce petit à quelque femme bien douce et bien soigneuse. « Non, fit-elle, il faudra toujours le surveiller, puisque j'ai répondu de lui, et tu vois ce que c'est que la surveillance. » Pour un jour qu'on croit pouvoir y manquer, c'est justement ce jour-là qu'il aurait fallu n'y manquer point. D'ailleurs, cela ne se peut, ajouta-t-elle en pleurant. Ce serait mal, et je me le reprocherais toute ma vie. Tu aurais tort si l'enfant doit y gagner. Il n'est point heureux chez toi, il pourrait l'être ailleurs. Comment il n'est point heureux? J'espère que si, sauf les jours où je m'absente. Eh bien, je ne m'absenterai plus. Je te dis qu'il n'est guère mieux les autres jours. « Comment, comment ?» dit encore Brulette, frappant ses mains avec dépit. « Où prends-tu cela? M'as-tu jamais vu le maltraiter ou seulement le menacer? Puis-je l'empêcher d'être d'un naturel malplaisant et rechigneux? Il serait à moi que je n'en saurais faire davantage. Oh, je sais que tu ne lui fais aucun mal et ne le laisses souffrir de rien, parce que tu es douce chrétienne. Mais enfin, tu ne saurais l'aimer, cela ne dépend pas de toi, et... Sans le savoir, il le sent si bien qu'il n'est porté à aimer et à caresser personne. Les animaux ont bien la connaissance du bon vouloir ou de la répugnance qu'ils nous occasionnent. Pourquoi les petits humains ne l'auraient-ils pas?
Fin de la 18e veillée. Enregistrée par Nadine et Kurt Boulet.
Dix-neuvième veillée des maîtres sonneurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les maîtres sonneurs de George Sand. 19e veillée. Brulette rougit, bouda, pleura encore et ne répondit point. Mais le lendemain, je la trouvai menant ses bêtes au champ et ayant avec elle, contre son habitude, le gros Charlot sur ses bras. Elle s'assit au lieu du pâturage, et l'enfant se roulant sur sa robe, elle me dit « Tiennet, tu avais raison hier. Tes reproches m'ont donné à penser, et mon parti en est pris. Je ne promets pas d'aimer beaucoup ce Charlot, mais au moins d'agir tout comme, et peut-être que Dieu m'en récompensera un jour en me donnant des enfants plus mignons que celui-là. Eh, mamie, lui répondis-je, je ne sais où tu prends ce que tu dis et ce que tu penses. Je ne t'ai fait aucun reproche, et je n'en ai à te faire que sur l'entêtement où te voilà, d'élever toi-même ce vilain gars. Voyons, veux-tu que je fasse écrire à ce carme, ou que je l'aille trouver, pour qu'il lui cherche une autre famille? Je sais où est son couvent, et j'aime mieux encore faire un voyage que de te voir condamné à de pareilles galères. » Non, non, Tiennet, dit Brulette, il ne faut pas seulement penser à changer ce qui est convenu. Mon père a promis pour moi, et j'ai dû l'approuver. Si je pouvais le dire, mais je ne le peux pas. Sache seulement une chose, c'est que l'argent n'est pour rien dans le marché, et que ni mon père ni moi ne voudrions accepter un denier en paiement du devoir qui nous est commandé. Voilà que tu m'étonnes de plus en plus. À qui donc est cet enfant? C'est donc à des personnes de votre parenté? De la mienne, par conséquent? Ça se peut, dit-elle, nous avons de la famille au loin d'ici. Mais prends que je ne te dis rien, car je ne le peux ni ne le dois. Seulement laisse croire que ce marmot nous est étranger et que nous en sommes payés. Autrement, les mauvaises langues accuseraient peut-être des personnes qui ne le méritent point. « Diantre, lui dis-je, tu me mets le marteau dans la tête. J'ai beau chercher... »« Justement, il ne faut pas chercher. Je te le défends.
Quand même, je suis sûr que tu ne trouverais rien. À la bonne heure, mais alors, tu vas donc te mettre en sevrage de divertissement comme ce gars est en sevrage de nourrice? Le diable soit de la parole de ton grand-père. Mon grand-père a bien agi, et si je l'avais contredit, j'aurais été une sans cœur. Aussi, je te répète que je ne veux point m'y mettre à moitié, quand j'y devrais périr d'ennui. » Brulette avait une tête. De ce jour-là, il se fit en elle un changement tel qu'on ne la reconnaissait point. Elle ne quittait plus la maison que pour faire pâturer ses ouailles et sa chèvre, toujours en compagnie de Charlot, et quand elle l'avait couché le soir, elle prenait son ouvrage et veillait au-dedans. Elle n'alla plus à aucune danse et n'acheta plus de belles nippes, n'ayant plus occasion de s'en attiffer. À ce dur métier-là, elle devint sérieuse et même triste, car elle se vit bientôt délaissée. Il n'est si jolie fille qui, pour avoir de l'entourage, ne soit forcée d'être aimable, et Brulette, ne montrant plus aucun souci de plaire, fut jugée maussade pour avoir trop donné de son esprit par le passé. À mon sens, elle n'avait changé qu'en mieux, car n'ayant jamais fait la coquette, mais seulement la princesse avec moi, elle me paraissait plus douce en son parler, plus sensée et plus intéressante en sa conduite. Mais il n'en fut pas jugé ainsi. Elle avait laissé prendre assez d'espérance à tous ses galants pour que chacun se trouvât offensé de son abandon, comme s'il eût eu des droits. Et, encore que sa coquetterie eût été très innocente, elle en fut punie comme d'un dommage qu'elle aurait fait supporter aux autres, ce qui prouve, à mon idée, que les hommes ont autant, sinon plus de vanité que les femmes, et ne trouvent pas qu'on en fasse jamais assez pour contenter ou ménager l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce qu'il y a de sûr, à tout le moins, c'est qu'il y a bien du monde injuste, mêmement parmi ces jeunes gens qui paraissent si bons enfants et serviteurs si réjouis tant qu'ils sont amoureux. Plusieurs de ceux-là tournèrent allègres, et j'eus, plus d'une fois, des mots avec eux pour défendre ma cousine du blâme qu'on lui donnait. Ils se trouvèrent malheureusement soutenus par les commères et les intéressés qui jalousaient la prétendue fortune du père Brulet. Si bien que Brulette, informée de ses malices, fut obligée de défendre sa porte à des curieux mal intentionnés ou à de lâches amis qui, par faiblesse, répétaient ce qu'ils avaient ouï dire aux autres. Ce fut de cette manière qu'en moins d'une année, la reine du bourg, la Rose de Nohant, fut abîmée des méchants et abandonnée des sots. On fit d'elle des diffamations si noires que je tremblais qu'elle n'en eût connaissance, et que, moi-même, j'en étais par des fois tourmenté et embarrassé d'y répondre. La plus forte des menteries, mais à laquelle le père Brulet aurait bien dû s'attendre, c'est que Charlot n'était ni un pauvre champier abandonné, ni un fils de prince élevé en secret, mais bien l'enfant de Brulette. J'avais beau remontrer que cette jeunesse ayant toujours vécu ouvertement sous les yeux du monde, et n'ayant jamais favorisé personne en particulier, ne pouvait pas avoir commis une faute si difficile à cacher. On me répondait par l'exemple d'une telle et d'une telle, qui avaient bien gaillardement dissimulé leur état jusqu'au dernier jour, et avaient reparu, quasi le lendemain, aussi tranquille et réveillé que si de rien n'était, et même avaient réussi à cacher les conséquences, jusqu'après s'être mariés avec les auteurs ou les dupes de leur faute. Cela était malheureusement arrivé plus d'une fois chez nous. Dans nos petits bourgs de campagne, où les maisons sont toutes parsemées et mis les jardins, et séparées les unes des autres par des chènevières, des luzernières, voire des champs assez étendus, il n'est pas aisé de voir et d'entendre à toute heure de nuit les uns chez les autres, et, de tout temps, il s'est passé bien des choses dont le bon Dieu seul a fait le jugement. Une des plus enragées langues était celle de la mère Lamouche, depuis que Brulette l'avait surprise dans son tort et lui avait retiré la garde de l'enfant. Elle avait été si longtemps la servante volontaire et le chien couchant de Brulette qu'elle ne s'arrangeait plus de ne rien gagner avec elle, et, pour s'en revancher, elle inventait tout ce qu'on souhaitait lui faire dire. Elle racontait donc à qui voulait l'entendre que Brulette s'était oubliée dans son honneur avec ce chétif gars José, et qu'elle en avait eu tant de honte qu'elle lui avait commandé de partir. José s'y était soumis, moyennant la promesse qu'elle ne se marierait avec aucun autre, et il avait été chercher fortune au loin, à seule fin de l'épouser. L'enfant avait été, disait encore la mouche, emporté dans le bourbonnais par des messagers tout barbouillés de noir qu'on disait muletiers, et avec lesquels Joseph s'était ménagé des accointances dans le temps, sous couleur d'acheter une cornemuse. Mais il n'y avait jamais eu d'autre cornemuse en jeu que ce braillard de Charlot. Enfin, un an environ après sa délivrance, Brulette avait été voir son amant et son petit, en ma compagnie et en celle d'un muletier aussi laid que le diable. C'est là que nous avions fait la connaissance du frère quêteur, lequel s'était prêté à rapporter le petit avec nous,
en conséquence de quoi nous avions, de concert, fabriqué l'histoire d'un champi de riche, ce qui était d'autant plus faux que ce champi-là n'avait pas fait entrer un sou de plus au logis de mon oncle. Lorsque la Lamouche eut inventé cette explication, où, comme vous voyez, le mensonge se trouvait emmêlé avec la vérité, son dire prévalut sur tous les autres, et la visite, si courte et quasiment cachée, que Joseph était venu faire avec nous au pays, acheva de persuader le monde. Alors on en fit de grandes risées, et Brulette fut qualifiée de Josette, en manière de sobriquet. Malgré mon dépit contre toutes ces méchancetés, Brulette prenait si peu de soin de s'en défendre, et marquait, par ses soins pour l'enfant, tant de mépris du qu'en dira-t-on, que je commençais à m'y embrouiller moi-même. Qu'est-ce qu'il y avait d'absolument impossible, après tout, à ce que j'eusse été pris pour dupe? Dans un temps, l'amitié de Brulette pour Joseph m'avait donné de la jalousie. Quelque sage et retenu que soit une fille, quelque honteux que soit un garçon, l'amour et l'ignorance en ont surpris bien d'autres, et il y a des couples si jeunes qu'ils ne connaissent le mal qu'après y être tombés. Pour avoir été sotte une fois, Brulette aurait pu n'en être pas moins, par la suite, une fille de tête, capable de bien cacher son malheur, trop fière pour s'en confesser, et assez juste, nonobstant, pour ne vouloir tromper personne. Était-ce par son commandement que Joseph voulait se rendre digne d'être un beau mari et un bon père de famille? C'était d'un vouloir sage et patient. M'étais-je trompé en supposant qu'elle avait du goût pour Huriel? J'en étais bien capable, et quand même ce goût lui serait venu malgré elle, comme elle n'y avait guère cédé, elle n'avait pas grand tort envers Joseph. Enfin, était-ce par devoir de conscience ou par durée d'amitié qu'elle avait marché au secours de ce pauvre malade? C'était son droit dans les deux cas. Finalement, si elle était mère, elle était bonne mère, encore que son naturel n'y fût peut-être pas porté. Toutes les femmes peuvent avoir des enfants, toutes les femmes ne sont pas curieuses d'enfants pour cela, et Brulette n'en avait que plus de mérite à revenir au sien, en dépit de son goût pour la compagnie et des doutes qu'elle laissait prendre sur la vérité. Tout bien considéré, je ne voyais, en tout ce que je pouvais supposer de pire, rien qui me fît rabattre de mon amitié pour ma cousine. Seulement, je l'avais vue si diversieuse là-dessus dans ses paroles, que je me trouvais gênée dans ma confiance. Elle savait trop bien user de ruse, s'il était vrai qu'elle aimât Joseph. Et si elle ne l'aimait point, elle avait donné trop d'aise et d'oubli à ses esprits pour une personne résolue à faire son devoir. Si elle n'avait pas été si maltraitée, je me serais ralenti de la fréquenter, tant ses doutes m'avaient ôté de mon assurance avec elle. Mais je me commandais, tout au contraire, de l'aller voir journellement et de ne pas lui marquer la moindre méfiance de ses paroles. Cependant, j'étais toujours étonné de la peine qu'elle avait à se ranger à son devoir de mère. Malgré le poids de chagrin que je lui sentais sur le cœur, il lui venait, à tout moment, des retours de cette belle jeunesse toujours fleurissante en toute sa personne. Si elle n'étalait plus ni soie ni dentelle, elle n'en avait pas moins toujours ses cheveux lisses, son bas blanc bien tiré, et ses pieds mignons grillaient de sauter quand elle voyait une belle place verte ou entendait un son de musette. Quelquefois, dans la maison, quand une bourrée bourbonnaise lui revenait en mémoire, elle mettait Charlot sur les genoux du grand-père et me faisait danser avec elle, en chantant, riant et se carrant comme si toute la paroissée eût été encore là pour la regarder. Mais au bout d'un moment, Charlot criait et voulait aller au lit, ou être porté, ou manger sans faim et boire sans soif. Elle le reprenait avec des larmes dans les yeux, comme un chien à qui on remet son collier, et, en soupirant, le berçait ou lui chantait une routine, ou le faisait se pourlicher de quelques galettes. Voyant comme elle regrettait son beau temps, je tâchais de lui offrir ma sœur pour garder son petit, tandis qu'elle irait aux danses de Saint-Chartier. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, il y avait, au vieux château dont vous ne voyez plus que la carcasse, une demoiselle vieille, qui était de belle humeur et donnait bal à tout le pays environnant. Bourgeois ou nobles, paysans ou artisans, y allait qui voulait, les salles du château étant si grandes qu'elles ne pouvaient jamais être trop remplies. Et l'on y voyait aller messieurs et dames, montés sur leurs chevaux ou bourriques en plein hiver, par des chemins abominables, en bas de soie, boucles d'argent, et tignasses poudrées à blanc comme l'étaient souvent de neige les arbres du chemin. On s'y amusait tant que rien n'arrêtait la compagnie riche et pauvre, qui s'y voyait bien régalée de midi à 6 heures du soir. La demoiselle dame de Saint-Chartier, qui avait remarqué Brulette dans les danses sur la place l'année d'auparavant, et qui était curieuse d'amener de jolies filles à ses bals de jour, la fit demander et,
par mon conseil, elle s'y rendit une fois. Je crus bien faire, car je m'imaginais qu'elle se laissait trop rabaisser, en ne voulant pas tenir tête aux méchants esprits. Elle avait toujours si bon air et un langage si à propos, qu'il ne me paraissait point possible qu'on n'en revînt pas sur son compte, en la voyant si belle et si bien tenue. Son entrée à mon bras fit d'abord chuchoter, sans qu'on osât davantage. Je la fis danser le premier, et, comme elle avait une grâce dont personne ne se pouvait défendre, d'autres vinrent l'inviter, qui peut-être furent tentés de lui dire quelque joyeuseté, mais n'osèrent point s'y risquer. Tout allait en douceur, quand des bourgeois arrivèrent dans la salle où nous étions, car les paysans avaient leur bal à part, et ne se confondaient avec les riches que sur la fin, quand les dames, ennuyées d'être quittées de leurs danseurs, se décidaient à se mélanger avec les filles de campagne, lesquelles attiraient mieux gens de toutes sortes par leur franc ramage et leur fraîche santé. Brulette fut d'abord guignée comme la plus fine pièce de l'étalage, et les bas de soie lui firent tant de fêtes que les bas de laine n'en pouvaient plus guère approcher. Et, par esprit de contradiction, après l'avoir bien déchirée pendant 6 mois, redevinrent tous jaloux en 1 heure, c'est-à-dire plus amoureux qu'auparavant. Si bien que ce fut comme une rage à qui l'inviterait, et on se serait quasi battu pour lui donner le baiser de l'entrée en danse. Les dames et demoiselles en bisquèrent, et les femmes de chez nous firent reproche à leurs paroissiens de ne savoir pas mieux garder leur rancune. Mais ce fut comme si elles chantaient complies, tant le regard d'une belle a plus de baume que la langue d'une laide n'a de venin. « Eh bien, Brulette, lui dis-je en la ramenant chez nous, n'avais-je pas raison de te secouer un peu de tes ennuis? Tu vois que la partie n'est jamais perdue, quand on sait la jouer franchement. » « Je t'en remercie, cousin, me dit-elle. Tu es le meilleur de mes amis, et mêmement, je pense, le seul fidèle et sûr que j'ai jamais eu. Je suis contente d'avoir eu raison de mes ennemis, et, à présent, ne m'ennuierai plus à la maison. Diantre, tu vas vite. Hier, c'était tout bouderie, aujourd'hui, c'est tout liesse. Tu vas donc reprendre ton rang de reine du bourg ?»« Non, dit-elle, tu ne m'entends pas. Voici la dernière fête où j'irai, tant que j'aurai Charlot. Car, si tu veux que je te le dise, je ne me suis pas divertie une miette. J'ai fait bon visage pour te contenter, et je suis aise, à présent, d'avoir soutenu l'épreuve. Mais tout le temps que j'ai été là, je n'ai pensé qu'à mon pauvre gars. Je le voyais toujours pleurant et rechignant, quelque amitié qu'on pût lui faire chez toi. Et il est si maladroit à se faire comprendre qu'il se sera ennuyé en ennuyant les autres. » Ces paroles de Brulette me retournèrent le sang. J'avais oublié Charlot en la voyant rire et danser. L'amour dont elle ne se cachait plus pour lui me remit en tête tout ce qui me semblait ses mensonges passés, et je crus aussi pouvoir la regarder comme une affineuse sans pareille qui se lassait de se contraindre. « Tu l'aimes donc de tes entrailles ?» lui dis-je, sans trop songer aux paroles que j'employais. « Avec mes entrailles ? » dit-elle étonnée. « Eh bien, peut-être qu'on aime comme cela tous les enfants, quand on réfléchit à ce qu'on leur doit. Je n'ai jamais fait semblant, comme bien des jeunesses que j'ai vues griller pour le mariage, d'avoir l'instinct d'une bonne poule couveuse. J'avais peut-être la tête un peu trop éventée pour mériter d'entrer en famille de bonheur. Il y en a qui ne peuvent gagner leurs 16 ans sans en perdre le dormir. Moi, je gagnerais la 20aine sans trouver que je suis en retard. Si c'est un tort, il n'y a pas de ma faute. Je suis comme Dieu m'a faite, et j'ai marché comme il m'a poussée. À dire vrai, un petit enfant est un rude maître, injuste comme un mari qui serait folle, obstiné comme une bête affamée. J'aime le raisonnement et la justice, et me serais plu en une compagnie douce et sage. J'aime aussi la propreté, et tu m'as souvent raillé de ce qu'un grain de poussière sur le dressoir me tourmentait, et de ce qu'une mouche dans mon verre m'ôtait la soif. Un petit enfant va toujours cherchant la malpropreté, quoi qu'on fasse pour l'en dégoûter. Et puis j'aime à penser, à songer, à me ressouvenir. Et le petit enfant veut qu'on ne songe qu'à lui, et s'ennuie dès que vous ne le regardez plus. Mais tout cela ne fait rien, Tiennet, quand le bon Dieu s'en mêle. Il a inventé une espèce de miracle qui se fait dans nos entendements quand il le faut, et, à présent, je sais une chose à laquelle je ne croyais pas, devant qu'elle m'advint. C'est que n'importe quel enfant, fût-il laid et méchant, peut bien être mordu par une louve ou piétiné par une chèvre, mais jamais par une femme, et qu'il viendra à la gouverner, à moins qu'elle ne soit faite d'un autre bois que les autres. » Comme elle disait cela, nous entrions chez moi, où Charlot jouait avec les enfants de ma sœur. « Oh, ma foi, vous faites bien d'arriver, » dit ma sœur à Brulette. « Vous avez là le gars le plus farouche qu'il y ait sur terre, Il bat les miens, les mord, les enjure, et il faut avec lui 40 charretées de patience et de compassion. » Brulette s'approcha, en riant, de Charlot qui jamais ne lui faisait aucune fête, et, le regardant jouir à sa manière, lui dit, comme s'il eût pu l'entendre, « J'en étais bien sûr que tu ne te ferais point aimer chez ces braves gens qui te supportent. Il n'y a donc que moi, mon pauvre chaland, qui sois accoutumé à ton bec et à tes griffes. » Quoique Charlot n'eût guère en ce temps-là que 18 mois, il eut l'air de comprendre ce que lui disait Brulette. Car il se leva, après l'avoir regardée un moment d'un air pensif, puis, sautant après elle, se mit à lui manger les mains de baisers comme s'il eût voulu la dévorer. « Oh oh !» dit ma sœur, « il a tout de même ses bons moments, à ce qu'il paraît. » « Ma fine, dit Brulette, j'en suis aussi confondue que vous, car voilà le premier que je lui vois. » Et, embrassant Charlot sur ses gros yeux ronds, elle se prit à pleurer de joie et de tendresse. Je ne sais pourquoi je fus secouée de ce mouvement-là, comme si c'était chose merveilleuse. Et, au fait, si ce gars n'était point à elle, Brulette, en ce moment-là, changeait bien devant mes yeux. Cette fille si accrêtée qu'elle n'eût point voulu traiter le roi de cousin 6 mois auparavant, et que, le matin même, toute la jeunesse de l'endroit, bourgeois et paysans, aurait encore servi à genoux, avait mis tant de pitié et de chrétienté dans son cœur qu'elle se trouvait récompensée de toutes ses peines par les premières caresses d'un malplaisant petit bavou, sans gentillesse et quasi sans connaissance. J'en eus une larme dans l'œil en songeant à ce que lui coûtaient ces caresses-là, et, prenant Charlot sur mon épaule, je le reportai avec elle à son logis. J'eus 20 fois sur le bout de la langue de lui demander la vérité. Car si elle était fautive de Charlot, j'étais tout prêt à lui en remettre le péché, et si, au contraire, elle prenait le fardeau du péché d'une autre, j'avais envie de lui baiser le bout des pieds, comme à la plus douce et patiente gagneuse de paradis. Mais je n'osais lui faire de questions, et quand je disais mes doutes à ma sœur, laquelle n'a jamais été sotte, elle me répondait, « Si tu n'oses point lui en parler, c'est que tu la sens innocente au fond de ton esprit. » Et d'ailleurs, disait-elle encore, une si belle fille aurait fabriqué un plus beau garçon. Il ne lui ressemble non plus qu'une pomme de terre à une rose. Fin de la 19e veillée.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Buy 2 get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get 3-pound packs of flavorful 80% lean ground beef for $2.99 a pound with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.